France Culture.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître une invitée pour décrypter avec elle son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invitée est ministre et ancienne ministre. Elle grandit à Paris dans les années 70, le 14e arrondissement et un immeuble très politique. Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement y vivent aussi. Son père, Lucien, est directeur de cabinet d'Edith Cresson au ministère de l'Agriculture, sa mère, enseignante. Hippocagne, au lycée Victor Duruy, Assas et Sciences Po, docteur en droit, avocate au barreau de New York et Paris, et puis l'ENA, concours interne, promo, Badinter. Elle gravite dans le monde des idées, conseillère de Ségolène Royal en 2007, chargée du lien avec les intellectuels, et un passage par le think tank Terra Nova en 2013. Aux élections, c'est plus dur, échec aux législatives de 2017, étiquette PS, échec à la ville de Montrouge en 2020, Toulouse, Montauban, Paris, Saint-Denis, Nice. En 2016, en pleine vague d'attentats terroristes, elle est nommée secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, un poste qui l'a changé, dit-elle, comme l'ensemble de la société. Ses inspirations, Georges Clemenceau et Gaston Bachelard, un triptyque de valeurs, liberté, mixité, laïcité. Un acronyme qu'elle n'aime pas, QPV, pour quartier prioritaire de la ville, c'est pourtant deux dont elle a la charge aujourd'hui. Bonjour Juliette Méadel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre chargée de la ville depuis le 23 décembre dernier dans le gouvernement de François Bayrou. Et merci à vous de nous écouter comme chaque samedi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Emmanuel Macron réfléchit à des questions à soumettre au référendum. Il s'exprimera devant les Français à la télévision mardi prochain. Avez-vous des idées pour lui ?
Oui, la première chose c'est poser la question de savoir qui va payer la charge de la dette publique. Je crois que c'est le sujet qui doit nous occuper sur les prochaines années. On en est quand même arrivé à un niveau de dette où on engage l'avenir de nos enfants. Vous voyez, 120% de dette publique qui correspondent à 120% de notre richesse nationale. Ça interroge quand même sur quel équilibre social on veut pour demain.
Ça, c'est l'idée de François Bayrou, le Premier ministre. Donc, vous la partagez. Certains disent que cette idée ne verra jamais le jour, que ce n'est absolument pas aux Français de trancher cette question. Qu'est-ce qu'on pose comme question sur le budget ?
Mais qui paye quoi et pourquoi faire ? Il n'y a rien de plus fondateur de la nation, de notre pacte social que ça. Les impôts, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte citoyen. Aujourd'hui, les Français ont l'impression qu'ils n'en ont plus pour leur argent en matière de services publics. Et ils ont aussi l'impression, qui est vrai, qu'ils payent beaucoup d'impôts. Donc le vrai sujet, c'est comment on partage la charge. Et il n'y a rien de plus essentiel pour avoir envie de continuer à vivre ensemble.
Alors comment on la partage, cette charge, Juliette Méadel ? Vous avez sans doute vu la Une du Monde cette semaine, le 7 mai. La France est redevenue une société d'héritiers, comme au 19e siècle. D'ici à 2040, 9 000 milliards d'euros de patrimoine détenus par des Français seront transmis à leurs enfants. Ça fait 677 milliards par an. Il n'est pas là l'argent ?
Mais, vous savez, il y a de l'argent en France, c'est certain. On n'est pas un pays si pauvre que ça. Mais en revanche, ce qui est insupportable, c'est la précarité et le creusement des inégalités. Je le vois tous les jours dans les quartiers dont j'ai la charge. Vous savez, les 1600 quartiers politiques de la ville, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que c'est pas un très joli mot. Ça veut juste dire qu'il y a 6 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à plus de 40%. Et donc je vais dans des quartiers avec des enfants qui font pas les trois repas par jour. Je vais dans des quartiers où je visite des logements insalubres. Et ça, c'est un scandale pour un pays qui gagne autant. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que si le président de la République et le Premier ministre ont voulu qu'il y ait un ministre de la ville, une en l'occurrence, c'est parce qu'eux aussi supportent pas cette précarité. Et donc on lutte tous les jours contre ça. Moi je lutte, je viens de signer hier une convention avec la Caisse des dépôts de 350 millions d'euros exclusivement pour les quartiers. C'est inédit. Et puis, je suis en train aussi de préserver mon budget. Vous voyez, ça, c'est un engagement politique fort. Et ça, ça dit aussi qu'on est d'accord dans ce gouvernement pour dépenser de l'argent public là où il y a de la précarité.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on cherche 40 milliards d'euros pour boucler 2026. Et dans le même temps, François Bayrou nous dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts.
Mais ça veut dire qu'il faut qu'on utilise mieux l'argent qu'on a. Moi, je vais vous donner un exemple sur mon budget. Mon budget, c'est 609 millions d'euros, mais c'est aussi...
Il a une petite baisse d'ailleurs, de 3%.
Il a une petite baisse de 3%, mais mon budget, c'est pas que ça. C'est aussi de l'argent qu'on octroie aux bailleurs sociaux pour qu'ils entretiennent mieux les quartiers. 315 millions d'euros. Je suis juste en train de faire en sorte que cet argent soit bien utilisé. Vous voyez, donc on ne dépense pas plus. Je demande simplement aux bailleurs sociaux de mieux entretenir. Et ça marche, ils le font. Ils sont dévoués, ils se sont mis en mouvement. On a des résultats. La propreté progresse. Et là où ça ne progressera pas, on durcira le ton.
Encore un mot sur le budget et l'actualité. Juliette Méadel, ministre de la Ville. Quand on voit qu'une entreprise comme ArcelorMittal licencie des centaines de personnes en France après avoir reçu sur la seule année 2023 300 millions d'euros d'argent public, est-ce que la femme de gauche que vous êtes se dit qu'il y a un problème ?
Évidemment qu'il y a un problème. Mais ça fait plus de 20 ans que ça dure. ArcelorMittal, ça date pas d'hier. Hein. Vous vous souvenez de Florange ? Je suis convaincue que quand on donne de l'argent public à une entreprise, il faut une contrepartie d'intérêt général. Donc, soit on donne rien, et dans ces cas-là, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. On est dans une économie de marché, et c'est comme ça, très bien. Soit ils prennent des aides publiques, et s'ils prennent des aides publiques, il faut qu'ils s'engagent en contrepartie pour l'intérêt général.
Cette idée, c'est ce qui a été reproché à François Hollande de ne pas l'avoir fait avec le CICE. François Hollande que vous avez bien connu, on en parlera un peu plus tard. François Bayrou ne semble pas non plus favorable à une idée de flécher les aides publiques en fonction de l'écologie ou des critères sociaux.
Personne n'y est favorable parce que faut reconnaître que c'est quand même très très compliqué à mettre en place. Hein. Faut de la bureaucratie. Dites-vous bien que les 40 milliards d'aides publiques aux entreprises, je parle pas des impôts, hein, je parle des subventions directes. Ça fait l'objet d'un contrat. La région, l'État donnent des aides publiques aux entreprises. Si on veut être sûr que ça retombe, il faut le suivre. Et donc, il faut des fonctionnaires, il faut des agents publics. C'est pour ça que c'est complexe. Mais ça ne nous empêche pas, à un moment donné, de dire que chaque euro dépensé doit être un euro utile. Moi, c'est à ça, et c'est l'ancienne magistrate à la Cour des comptes que je suis qui vous le dit, puis c'est aussi la femme politique. Soit on met de l'argent public et on a justement le droit d'avoir des contreparties. Et si on n'en met pas, bah chacun fait ce qu'il veut.
Donc, pour conclure sur ce sujet, Juliette Méadel, ministre de la Ville, que dit-on dans ce référendum aux Français ? Pour ou contre plus d'impôts ? Pour ou contre ? C'est un référendum très très complexe que vous nous proposez là.
Mais oui, la difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut réussir à poser les bonnes questions. Et puis, c'est pas simple. Mais je crois qu'on peut se mettre d'accord sur une ou deux questions. Et une ou deux questions, après tout, ouvertes sur ce sujet-là, ça serait bon pour le pays. Et surtout, ça serait bon pour la démocratie.
En effet, Emmanuel Macron semble réfléchir à faire un référendum multiple, plusieurs questions, plusieurs sujets à trancher. C'est le même jour, ça vous semble une bonne idée, vous qui avez beaucoup travaillé sur les questions de démocratie, de rénovation démocratique.
Comment ne pas trouver que consulter les Français est une bonne idée ? C'est une évidence, d'autant que les Français ont envie aussi de dire, d'avoir leur mot à dire dans une période où les démocraties partout dans le monde sont mises en cause. Donc oui, nous avons besoin de la voix des Français.
Le président de la République, en parlant de voix des Français, a aussi annoncé le 2 mai une troisième convention citoyenne sur les rythmes des enfants, notamment à l'école. On a déjà eu la Convention citoyenne sur le climat qui n'a pas totalement été suivie d'effet, celle sur la fin de vie qui n'a pas encore abouti. Est-ce que c'est vraiment le bon moment, sans langue de bois, Juliette Méadel, pour une troisième Convention citoyenne ?
C'est le bon moment si on en tire ensuite des leçons et qu'on l'applique dans les lois et dans notre organisation. Vous vous souvenez que les rythmes scolaires, nous les avions réformés du temps de François Hollande, et moi je trouvais que c'était une bonne idée que d'alléger les rythmes et de permettre aux enfants l'après-midi de faire du sport, de la musique, et d'alléger un peu cette lourdeur.
Ça avait beaucoup fait polémique sur le terrain à l'époque. Hein.
Oui.
Il y avait eu beaucoup de résistance.
Il y avait eu des résistances parce qu'on n'avait pas aidé les collectivités locales à mettre en face des activités. Et c'était ça le problème. Mais il faut continuer, et moi je trouve que demander aux familles ce qu'elles pensent de l'organisation des rythmes des enfants, c'est une excellente idée. On n'a pas assez mis l'enfant au cœur de nos politiques publiques en France. C'est l'un de mes combats depuis des années. Il faut bien comprendre qu'une société qui prépare l'avenir, c'est une société qui fait de l'enfant son trésor. Et aujourd'hui, on ne les protège pas assez, on ne garantit pas assez que les conditions dans lesquelles ils grandissent sont des conditions propices à leur épanouissement et à leur bonheur. On luttera contre le trafic de drogue en prévenant, c'est-à-dire en accompagnant les enfants qui, dès 9 ans, sont les victimes de ces trafiquants, en les accompagnant par de l'éducation, par de l'accompagnement psychologique, par des soins, par l'accès à la culture, au sport. Faut pas les laisser tomber.
C'est votre voix qu'on entend, Juliette Méadel, le 22 avril dernier, lors d'un déplacement à Rennes comme ministre chargée de la ville, devant les caméras de France 3. Alors on vous a entendu, hein, notamment pour lutter contre le trafic de drogue ou la difficulté à réussir dans la vie, l'éducation, le sport, la culture, le soin, la psychologie. On a envie d'applaudir, mais comment on fait dans un budget aussi serré ?
Mais d'abord, il y a un message politique qu'on n'entend pas assez. c'est que chaque fois qu'il y a des violences, des rixes entre des jeunes adolescents, quand on voit ce qui s'est passé à Nantes, ce qui se passe à Rennes, quand on voit même des règlements de compte hein, entre des enfants entre 11 et 13 ans avec des coups de poignard à Bagneux encore récemment, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que si on en est là, c'est parce qu'on s'est pas assez occupé de ces enfants. C'est notre responsabilité collective d'avoir un enfant de 12 ans qui plante un autre enfant de 11 ans avec un couteau. Ça veut dire qu'on s'est pas occupé de ces gamins-là. Et ce sont des enfants qui sont donc livrés à eux-mêmes. Et quand on laisse des enfants livrés à eux-mêmes, qui s'en empare ? Les trafiquants, les réseaux et toutes les mauvaises influences. Donc c'est d'abord un message politique qui consiste à dire il faut tout un pays, il faut toute une ville, il faut tout un village pour élever un enfant, premièrement. Deuxièmement, il y a des moyens de faire mieux. Avec mon collègue ministre de la Santé, Yannick Neuder, on est en train de travailler pour avoir des psychologues bien formés à ce qu'on appelle la clinique infanto-juvénile dans les quartiers. Et on va y arriver. Donc déjà, mobiliser ces psychologues-là. Ensuite, dire à toute la communauté éducative, non seulement les enfants sont un trésor, mais les parents aussi. Intégrer, accueillir le parent, le faire rentrer dans l'école, mettre en place des cafés d'accueil pour discuter, échanger. Vous savez, ça coûte pas grand-chose, ça. C'est juste qu'il faut qu'on change de regard sur ces enfants, qu'on sache leur parler, leur tendre la main et les aimer.
Comment vous êtes reçu quand vous faites ce genre de déplacement? Et vous en faites beaucoup hein, dans les quartiers, dans les villes dont vous avez la charge. Qu'est-ce que vous ressentez de ces populations-là sur le regard vers le politique que vous représentez, vous, à ce moment-là, Juliette Méadel?
Ce que je ressens et qui m'émeut profondément, c'est que quand je parle d'enfants abandonnés, je vois des mères, parce qu'en réalité, ce sont des mères à accent grave RE que je vois dans les quartiers. 99% des habitants qui gèrent les problématiques quotidiennes sont des femmes, et en particulier des mères qui sont seules, familles monoparentales, qui doivent tout gérer, la difficulté de la survie, les problèmes de sécurité, les problèmes de logement. Et ces femmes-là, quand je leur dis ça, les enfants au cœur, une fois sur deux, elles pleurent. Elles pleurent parce qu'elles se sentent touchées et parce qu'elles partagent ce constat. Et c'est comme si on soulevait un tabou que personne n'avait jamais voulu assumer. C'est comme si vous êtes femme, vous êtes mère seule. Non seulement vous devez tout gérer, mais en plus il faut serrer les dents et vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Et c'est ça qui me frappe, c'est qu'elles adhèrent. Maintenant, il faut trouver les moyens de les aider vraiment.
Il y a 3 ans, dans une conférence avec François Hollande, interrogé sur l'impuissance politique, vous répondiez « Je trouve que la politique est désespérante ».
Elle est désespérante parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas les solutions. On peut le faire. Voyez les quartiers. Tout le monde dit « C'est l'enfer, c'est l'horreur, on n'y arrivera jamais ». Mais c'est pas vrai. C'est 6 millions d'habitants et dans ces quartiers-là, oui, il y a du trafic de drogue très dangereux, très grave, qui se développe, c'est vrai. Mais il y a aussi des habitants beaucoup plus nombreux que les trafiquants de drogue. Il y a des élus locaux qui se lèvent la peau, toutes couleurs politiques confondues. Il y a des associations remarquables et il y a la majorité des habitants qui a envie de s'en sortir. Et donc les solutions, on les connaît. Moi, je peux vous dire que investir sur l'enfance pour lutter contre la déscolarisation et l'échec scolaire, ça marche. C'est pas moi qui le dis, c'est des macroéconomistes, c'est des psychologues, c'est des éducateurs, c'est même James Heckman, qui est un économiste libéral américain, qui dans les années 70 montre que 1 euro dépensé sur un enfant avant 10 ans, c'est 10 euros d'économiser plus tard. Donc, ce qui me désespère, c'est que les solutions, on les a, mais en même temps, ce qui me donne de l'énergie, c'est que les habitants, les citoyens, ont envie que ça bouge et que ça change, et ils le font.
Est-ce que la politique peut changer la vie, même quand on a peu de temps ? Comme vous, Juliette Méadel, dans une situation politique où vous pouvez tomber à tout moment.
Bah oui, ça marche. Vous voyez, moi j'ai signé ma convention à 350 millions d'euros hier avec la Caisse des dépôts. C'est de l'argent qu'on va investir dans l'enfance et dans les quartiers. C'est inédit. La Caisse a jamais investi autant dans les quartiers que depuis hier où on a signé ce contrat. Les bailleurs sociaux font un travail formidable là, depuis 3 mois, parce que c'est vrai que je les ai mis un peu en tension en les menaçant de leur supprimer une aide publique, mais ils sont dans l'écrasante majorité d'entre eux. Ils bossent avec énormément d'envie de s'en sortir. Et donc oui, on peut avoir des résultats, mais seulement il faut aimer les gens et puis surtout il faut y croire. Et je suis quand même dans un gouvernement où tous les ministres qui sont là, ils y croient dans l'action publique, même si c'est dur. Tout le monde y croit et en particulier le Premier ministre.
Alors, il y a un de vos collègues, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a estimé le 4 mai dernier, dans une vidéo YouTube sur le média en ligne Légende, qu'il n'y a plus, je cite, de « safe place » en France, d'endroit sûr. Vous avez le même regard que lui ?
Oui, parce que c'est ce que me disent beaucoup les habitants des quartiers. Alors, je suis moi dans les quartiers, hein, et c'est la première chose que m'ont dit les habitants des quartiers, c'est la sécurité. C'est leur première demande. C'est-à-dire que c'est la sécurité contre les trafics de drogue, mais pas seulement. Les rixes, des incivilités qui peuvent se terminer très très mal. Oui, il y a une violence. Alors, ça relève pas que du ministre de l'Intérieur et de la Justice. Hein. Ça relève aussi, je pense, d'un discours global, d'un discours politique global. Le politique doit être exemplaire. Les appels à la haine de l'autre, comme on peut les voir de part et d'autre de l'échiquier politique dans les extrêmes, nous déstructurent. Donc, il y a de la douceur qui manque, de l'humanité qui manque. Et c'est comme ça aussi qu'on donnera l'exemple. Et puis, quand il dit « safe place », moi je pense aussi à la dégradation de la santé mentale d'une large part de nos concitoyens et la faiblesse de la réponse médicale et psychiatrique parce que nous n'avons plus assez de psychiatres et de pédopsychiatres. Et c'est un sujet dont le gouvernement auquel j'appartiens se charge et dont je me charge moi aussi dans les quartiers politiques de la ville.
Est-ce que l'attitude du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a été exemplaire après le meurtre d'Aboubacar Cissé le 25 avril dernier ?
Oui, je crois, je lui en ai parlé. Je sais qu'il a pris contact avec la famille immédiatement. Il est l'un de ceux, et d'ailleurs c'est celui qui a tweeté en premier pour dire son soutien. Il a reçu et fait recevoir en tout cas les victimes. Et quand je parle avec Bruno Retailleau de prévention et d'enfance, je peux vous dire que j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour le convaincre que tout démarre dès l'enfance. Et ça, franchement, je le souligne parce que c'était pas complètement évident. Hein. Je partage pas ses idées sur tout, loin de là. Mais sur cette question de la préservation du plus fragile dans les quartiers et du meilleur moyen de lutter contre la délinquance par l'action sociale dans les quartiers, je crois que nous sommes en phase.
Et quand il dit « abat le voile » sur une tribune politique ?
Ah, ça, comme ministre des cultes, c'est sûr que... Est-ce que c'était la meilleure des questions qu'il ait posées ? Je n'en sais rien. Bon, il est dans une campagne interne aussi. Hein. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut que nous apaisions le rapport aux religions, mais moi, je suis aussi intraitable sur l'islam politique. Je pense que tous les croyants doivent être respectés, mais l'islamisme politique, ça c'est un combat, et c'est un combat que nous devons mener en France.
En 2015, vous étiez porte-parole du Parti Socialiste et vous disiez, à titre personnel, je suis plutôt hostile au voile à l'université. 10 ans plus tard, est-ce que vous avez changé sur cette question ?
Bah non, j'ai pas changé, mais c'est à titre personnel. Parce que vous voyez, typiquement, à l'université, les femmes sont libres, elles sont adultes. Donc là, à nouveau, moi j'en appelle à l'apaisement. Mais c'est certain que, bon, ça ne me fait pas toujours très plaisir quand je vois des jeunes filles, surtout quand elles ont un voile intégral. J'ai enseigné à Paris 13, à Villetaneuse, il y a plus de 15 ans, il n'y avait pas un seul voile à l'université. Je vais souvent au Maroc, j'ai une partie de ma famille marocaine, et mon beau-père me racontait lui-même qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas de voile au Maroc. Et pourtant, il était croyant. Vous voyez, les musulmans qui croient tranquillement ne se reconnaissent pas dans cet islam politique qui est un mouvement politique de déstructuration de la République, mais qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est, comme du temps d'Averroès, aussi une religion de paix.
Vous pensez que toutes les femmes qui portent le voile sont dans une démarche politique ?
Je pense que le message qu'elles envoient, même si elles veulent aussi se protéger, parce que dans les quartiers, elles se font embêter. Donc, c'est pas si simple. Mais c'est un message, le voile, qui, lorsqu'il est intégral, encore une fois, est un message qui heurte la républicaine qui est féministe que je suis.
Mais le voile intégral, il est interdit aujourd'hui en France.
Oui, il est interdit, mais vous savez, on le croise de plus en plus quand même. Hein. Donc c'est ça le sujet. Et c'est ça le sujet. Et moi, c'est le voile intégral qui me choque. La burqa est interdite. Dans le voile intégral, évidemment, il y a plusieurs nuances. Moi, je trouve simplement que je ne me réjouis pas de voir de plus en plus de jeunes femmes qui sont de plus en plus voilées. Je ne m'en réjouis pas, je n'estime pas que c'est un progrès. Alors attention, hein, encore une fois, il faut bien distinguer le voile comme nos grands-mères sur les cheveux, et puis le voile intégral qui est une entrave à la liberté des femmes.
Est-ce que vous faites le lien avec ces femmes qui porteraient selon vous plus le voile qu'avant et l'échec de la promesse républicaine dont vous parliez en début d'émission?
Oui, parce que ça veut dire que c'est des femmes qu'on n'a pas su protéger. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle La réputation de l'ordre aussi, qui se passe sur un quartier à Creil et qui raconte très très bien ces jeunes filles de 12-13 ans qui globalement dans les quartiers se font traiter de tous les noms parce qu'elles ont une vie de jeune fille émancipée et qui se portent un voile pour éviter de se faire agresser. C'est un échec de la promesse républicaine et je veux dire à tous ces habitants des quartiers que notre devoir à nous, République, c'est de les protéger. Ça veut dire quoi ? Que ceux qui veulent pratiquer, pratiquent tranquillement, qu'ils soient protégés dans leurs croyances, mais que l'on n'essaie pas d'imposer des principes qui sont des principes d'un islam politique qui combat la République française.
Il y a eu ce débat au sein du gouvernement auquel vous appartenez, Juliette Méadel, sur la question du voile dans les compétitions sportives. Gérald Darmanin parle par exemple d'entrisme, quand Marie Barsac, sa collègue ministre des Sports, estime que ça n'en est pas. Quelle est votre position sur le sujet, vous, ministre de la Ville ?
Moi, je trouve que quand il y a des compétitions sportives et qu'il y a un voile, il y a quelque chose qui ne va pas. Une compétition sportive, c'est quand même un moment où on n'a jamais vu auparavant de jeunes femmes qui venaient avec des voiles au moment des compétitions sportives. Donc moi, je n'y suis pas favorable. C'est aussi le moment où chaque compétiteur doit être vêtu de la même manière pour que l'égalité des chances soit préservée. Et donc, je n'y suis pas favorable. Et je pense qu'il faut donc avoir des principes fermes sur ce sujet-là.
Ça ne risque pas d'exclure une partie de ces femmes qui voudraient faire du sport ?
Non, au contraire. Il faut les inclure, mais par d'autres moyens. Il faut précisément les aider à s'émanciper par l'école et par l'activité économique, et c'est ce à quoi je m'emploie, notamment dans les quartiers.
Vous avez publié en 2021 ce livre « Un impérieux besoin d'agir » aux éditions de l'Observatoire, et vous racontez une anecdote à propos d'identité nationale, puisque c'est un peu le sujet de notre discussion, Juliette Méadel. En 2010, votre directeur de stage à l'ENA qui vous dit, c'est Nicolas Sarkozy qui crée ce débat, et même un ministère, et il vous dit, ce préfet, le débat sur l'identité nationale, c'est comme un débat sur l'amour dans un couple. Quand on se met à en parler, c'est que l'on ne sait plus trop pourquoi on est ensemble.
Et c'est aussi ce qui me désole aujourd'hui, c'est que depuis ce débat sur l'identité nationale, qui s'était pas si mal passé que ça, parce que la France était moins déstructurée qu'aujourd'hui, le « tous ensemble » est fragilisé. Et aujourd'hui, on se repose la question du tous ensemble. Pourquoi faire ? Quelle est la cohésion ? Quels sont nos principes ? C'est aussi pour ça que le débat sur l'impôt n'est pas un mauvais débat. Mais je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus capable d'assurer la promesse républicaine par la solidarité. Et c'est ça qui nous a manqué aujourd'hui. Et par ailleurs, nous devons lutter contre les tentatives de déstructuration de la République que vous allez retrouver tant chez les insoumis que chez une partie de l'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose que je veux combattre absolument, parce que c'est ça qui risque de nous diviser.
En 2023, un dernier mot sur la politique de la ville, Juliette Méadel. Emmanuel Macron avait promis, après les émeutes suite à la mort de Naël, de tirer des conséquences. Il ne s'est jamais rien passé. Est-ce une mission à laquelle vous devez vous atteler, vous, en tant que ministre de la ville ?
Naël, c'était des émeutes qui ont lieu effectivement en 2023. Il y a eu un conseil comité interministériel des villes à Chanteloup-les-Vignes en octobre 2023. Et c'est vrai que peu de choses ont bougé, mais il y a quand même eu des progrès. Il y a eu une période d'instabilité politique. Hein. La France a quand même subi une dissolution et deux remaniements. Donc ça n'a pas beaucoup bougé.
Enfin, il y avait un an pour le faire juste avant.
C'est vrai.
On l'attendait.
Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous. Bon, il y a quand même des choses qui ont été faites parce qu'on a renforcé les moyens de la sécurité. Et je veux rendre hommage au président de la République qui a créé ce qu'on appelle les cités éducatives. Et ça, c'est l'un des outils phares sur lequel je m'appuie, puisque je vais lancer bientôt un renforcement des moyens dans les cités éducatives et un soutien précisément à l'enfance. Donc il n'y a pas rien, il y a un budget de la ville qui a augmenté de 7% chaque année, constamment.
Sauf cette année.
Sauf cette année où il a perdu presque 3,5%, mais les autres ont perdu beaucoup plus. Et puis il y a aussi cette priorité affichée. Vous voyez, dire on nomme un ministre de la ville, ça veut dire on n'a pas baissé les bras.
France Culture. Sens politique, Astrid de Villene.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte. Elle doit être grande et les autorités de l'État fermes, nous le serons.
C'est très émouvant d'entendre François Hollande avec sa voix éraillée par la douleur. Et puis il faut voir aussi que c'était la stupeur totale. On ne s'y attendait pas quand même à cette violence. Même si en 2012, à Toulouse et à l'école aux Aradora, il y avait déjà eu des attentats avec une petite fille qui avait été tuée par Daesh en réalité. Ce qui se passe là, c'est une fracture historique. C'est comme le 11 septembre aux États-Unis. Et ce que voulaient les terroristes, c'était nous diviser. eux, ce qu'ils veulent, c'est instiller le poison de la guerre civile en France. C'est pour ça qu'ils se sont attaqués à l'école Osaratora, à Charlie Hebdo, à l'hypercachère de Vincennes, puis les attentats de novembre, et qu'ils ont continué jusqu'aux attentats de Nice et jusqu'à récemment. Et c'est ça notre devoir, nous, Français, c'est de pas se laisser faire par les terroristes qui veulent la guerre civile en France.
On vient d'entendre François Hollande, effectivement, le 13 novembre 2015, lors d'une allocution télévisée spontanée, le soir des attentats de Paris. Vous, Juliette Méadel, à ce moment-là, vous êtes où ? Je crois que vous avez même de la famille qui est sur les lieux.
Oui, j'ai de la famille qui est sur les lieux. Je suis à cette époque-là porte-parole du Parti Socialiste. Évidemment très inquiète et puis en plus j'étais enceinte à ce moment-là. Et je me dis que c'est vraiment le basculement dans autre chose. Je suis inquiète parce que je me dis il va y avoir des répercussions et des mouvements de ratonnade contre les musulmans en France. Et donc, je pense à la déstructuration. Et puis, il y a ensuite quand même un mouvement de solidarité nationale.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que vous écrivez dans votre livre que je citais à l'instant, Un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire, que paradoxalement, ce moment de, qui aurait pu être celui d'une division, en réalité est celui d'une unité que vous n'aviez pas vue depuis longtemps.
Exactement, les moments, le Charlie, le Je suis Charlie.
La marche du 11 janvier.
Marche du 11 janvier, le discours remarquable de Manuel Valls. Extraordinaire discours au mois de janvier à l'Assemblée nationale, un discours de à la Clémenceau. Où il explique c'est quoi la République française pour quelqu'un comme lui qui vient d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est que cette promesse qui nous préserve tous ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la laïcité, c'est le garant de la paix et c'est le garant de la stabilité en France ? Et ça, c'est le socle fondateur de l'histoire de notre pays. C'est ça qu'il faut protéger à tout prix. Donc c'est un moment qui est un moment d'espoir. Vous vous souvenez quand même que tous les chefs d'État viennent. Moi, j'ai les images où on est tous dans la rue en train de se tenir les coudes, où tout le monde est acclamé, même les forces de l'ordre. Ce moment-là est rare. Et donc, ça met du baume au cœur. Mais on ne savait pas à cette époque-là que 8 mois plus tard, on allait subir les attentats de novembre. Puis, les attentats du Bataclan, les attentats des terrasses. Et un an après, les attentats de Nice, le 14 juillet. Et ça, vous voyez, on est entré quand même dans ces années-là dans un cycle dans lequel, dont nous ne sommes pas encore sortis parce que des attentats sont déjoués encore aujourd'hui chaque semaine. Mais on est entré dans autre chose. Et je me dis à l'époque, c'est exactement le genre d'incident qui peut mener le Rassemblement national au pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est fait pour nous déstructurer et parce qu'il suffit d'un attentat comme ça pour que tous les Français, par peur, et on peut les comprendre, cherchent des réponses qui sont de mauvaises réponses, évidemment, parce que les réponses des extrêmes sont les mauvaises réponses. Mais c'est exactement comme ça que les terroristes ont conçu, à mon avis, ces attentats, c'est de pousser les extrêmes au pouvoir.
Alors s'il y a eu en effet une forme de resserrement des rangs dans le pays à ce moment-là, est-ce que finalement ce que vous décrivez, c'est-à-dire la désunion, la violence verbale, le RN qui ne fait que progresser, c'est arrivé en fait plus tard, aujourd'hui 10 ans plus tard, est-ce que on peut pas se dire que finalement on en paie les conséquences aujourd'hui de ces attentats ?
J'en suis absolument convaincue. C'est-à-dire que je pense que depuis les attentats que nous avons subis, c'est comme une espèce de bombe à fragmentation pour la République. Et que chaque jour, chaque fois qu'un attentat se renouvelle, en plus un attentat commis au nom d'une idéologie qui est l'islam politique et qui instille un ferment de division interne, car les terroristes, contrairement à ce que dit le Rassemblement National, c'était pas tous des immigrés en situation irrégulière. Il y en a qui étaient français, il y en a qui avaient la double nationalité. Donc c'est vraiment le poison qui est semé chez nous pour faire exploser la promesse républicaine. Quand vous regardez la promesse républicaine, elle est aux antipodes de l'idéologie de l'islam politique et même des idéologies dictatoriales et totalitaristes. C'est la liberté, c'est l'égalité, la fraternité, la laïcité. C'est les Lumières. Et aujourd'hui, il y a un mouvement mondial contre les Lumières, contre la liberté et contre la République.
On parle parfois de antisémitisme d'atmosphère. Diriez-vous, Juliette Méadel, qu'il y a aussi en ce moment en France un racisme d'atmosphère ?
Un peu des deux, oui, absolument. D'abord, il y a un antisémitisme plus que d'atmosphère. Moi, je crois que ce mot est quand même un euphémisme un peu choquant.
C'est Gilles Kepel qui l'utilise.
Bah oui, mais je pense qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, il y a un antisémitisme qui est carrément assumé, hélas, dans certains rangs à gauche. Ce qui est une défaite absolue, une trahison absolue. Il y a un antisémitisme à l'extrême droite, tout le monde le sait, mais ça, on le sait depuis longtemps. En revanche, l'antisémitisme à l'extrême gauche, y compris qui contamine certains dans une gauche dite normale, ça c'est une nouveauté et ça c'est l'un des effets de la déstructuration de la société.
Qui est antisémite à gauche, Juliette Méadel, selon vous ?
Il y a des propos antisémites, évidemment, c'est jamais aussi clair que ça. Mais vous voyez, cette espèce de bonne conscience que se donnent certains en considérant que tous ceux qui sont juifs défendent par principe Netanyahou, ça c'est de l'antisémitisme.
Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon.
Mais évidemment, on peut dans une même phrase dire « Netanyahou est un dangereux dirigeant d'extrême droite et je condamne le Hamas, qui est un mouvement terroriste, et je condamne toutes ces agressions antisémites choquantes qui ont été multipliées par 100 sur notre territoire depuis un an et demi. »
Vous qui venez de la gauche, vous êtes aujourd'hui au gouvernement de François Bayrou. On va peut-être parler un peu du congrès du Parti Socialiste. Vous vouliez y voter, vous n'avez pas pu. Mais comment voyez-vous ces deux gauches qui s'affrontent sur cette question en fait du conflit israélo-palestinien ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vu ou est-ce que c'est depuis le 7 octobre ?
C'est quelque chose que j'avais déjà vu parce que je sais qu'il y a à gauche depuis très très longtemps, à l'extrême gauche, une espèce de mouvement un peu antisémite historique. Mais ça c'est dans l'ADN hein, même de certains au Parti communiste à l'époque. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on a une gauche socialiste qui n'a pas mis le cordon sanitaire qu'il fallait avec les insoumis. Au lendemain du 7 octobre, j'étais très choquée, d'ailleurs je me suis exprimée dans la presse à ce sujet-là, j'étais très choquée par le communiqué de presse du Parti Socialiste qui, certes, rend hommage aux victimes de l'attentat du 7 octobre, mais qui, dans le deuxième paragraphe, conditionne cet hommage en rappelant les faits en Israël et en disant, oui mais en même temps, sous-entendu, les circonstances font que la politique de Netanyahou montre qu'ils l'ont bien cherché. Vous voyez, on ne conditionne jamais un hommage à une victime d'un attentat terroriste. Jamais. Donc, c'était déjà une première défaite. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté il y a un an de reprendre ma carte au PS, c'est que je souhaite que le Parti Socialiste lave à tout jamais ce péché d'une alliance avec les insoumis, une alliance électorale avec un mouvement dont un certain nombre de leaders, hein, pas tous, ont des propos antisémites. C'est une alliance contre nature. C'est une insulte à Léon Blum. C'est une insulte à Mendès France, à tous ceux qui ont porté le Parti Socialiste. Et ça doit être lavé au plus vite.
C'est assez grave ce que vous dites, Juliette Méadel. Hein, vous les traitez clairement d'antisémites. Je ne crois pas qu'ils aient été condamnés, les insoumis, là-dessus.
Écoutez, qu'ils soient condamnés, il y a d'abord il y a des instances. Je ne dis pas les insoumis sont antisémites, loin de là. Je dis qu'il y a des dirigeants des insoumis qui ont eu des propos antisémites, ce qui n'est pas la même chose.
Et alors, vous n'avez pas pu reprendre votre carte au Parti Socialiste, on vous en a empêché.
Ça, c'est une petite anecdote. Oui, il y a des dirigeants du PS qui m'ont demandé de reprendre ma carte il y a quelques mois, justement pour peser sur les orientations politiques. Et donc, je l'ai prise, hein, cette carte. Elle était prise, bon, que maintenant, qui refusent des adhésions a posteriori, qu'ils excluent, parce que j'ai été exclue du coup du Parti Socialiste parce que je suis rentrée au gouvernement. En réalité, c'est pas valable parce qu'on n'exclut pas les gens comme ça, mais peu importe.
Vous allez voter pour qui ?
Peu importe. Si je pouvais voter, je voterais pour tous ceux qui prônent la rupture définitive avec les insoumis. Donc en l'occurrence, je crois que c'est Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy. Mais c'est un tout petit sujet pour moi. Ce qui compte en revanche, c'est qu'on arrive définitivement à montrer qu'il y a dans ce pays une gauche républicaine qui en aucun cas n'est solidaire des insoumis. Et d'ailleurs, je suis assez fascinée, parce que j'ai vu qu'il y a un livre qui est sorti là, qui s'appelle La Meute. Je suis assez fascinée de voir qu'il y a certains qui découvrent aujourd'hui ce qu'est la France insoumise. Bien sûr que c'est une secte. Bien sûr que c'est une secte qui n'est pas démocratique et qu'on peut aussi y avoir des propos tranquillement antisémites en se donnant bonne conscience. Mais c'est une meute en fait. Et c'est une meute qui lâche ses chiens, y compris sur tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai été candidate aux élections municipales à Montrouge en 2020 au nom d'un mouvement citoyen, parfaitement citoyen. Ce mouvement est arrivé en tête au second tour et on a fait plus de 27%. Les militants de la France insoumise ont préféré faire alliance avec la droite contre moi au second tour pour empêcher de gagner un mouvement avec un programme clairement de gauche républicaine. Et pourquoi ? Parce que la France insoumise préfère tuer la gauche et faire élire un maire de droite plutôt que de soutenir la gauche républicaine que je représentais. Moi, je me demande où ils étaient en 2018 hein, et en 2022, tous ceux qui aujourd'hui brandissent ce livre en disant qu'ils sont les victimes d'une secte. En réalité, tout le monde n'a pas été aussi clair. Et moi, je souhaite qu'aujourd'hui, la lucidité prévale et qu'aujourd'hui, une partie de la gauche jusqu'au Parti Socialiste rompe définitivement avec cette armée de trolls qui a jeté aux pieds les principes de la République.
Sens politique, l'archive de l'invité.
La parole est à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale de mort en France. Parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. Et pour tous les abolitionnistes, il est impossible d'accepter de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort parce que nous savons qu'elle est faillible. Le choix qui s'offre à vous en cet instant, à vos consciences, car vous allez vous prononcer, ce choix est clair. Ou notre société refuse une justice qui tue et elle accepte d'assumer au nom de ses valeurs fondamentales celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes, la vie de celui qui fait horreur, dément ou criminel, ou les deux à la fois, et c'est le choix de l'abolition. Où elle croit cette société faire disparaître en dépit de l'expérience des siècles le crime avec le criminel. Et c'est l'élimination, cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité.
C'est les mots du grand homme que j'ai eu la chance de fréquenter et avec qui j'ai noué une relation d'amitié pendant 20 ans. Un grand homme par excellence, humble, soucieux de la transmission et qui a été pour l'élève avocate que j'étais évidemment une référence. Puis ensuite, qui a donné le nom à la promotion de l'ENA à laquelle j'appartenais, et enfin qui a parrainé la conférence internationale pour l'aide aux victimes que j'avais montée quand j'étais aux victimes, et parce que c'est lui le père de l'aide aux victimes lorsqu'il était ministre de la Justice. Et donc je lui ai demandé de venir présider la grande conférence internationale pour l'aide aux victimes que j'ai organisée en 2017 quand j'étais au gouvernement.
On vient d'entendre en effet Robert Badinter à la tribune de l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Magnifique discours qu'on peut revoir sur le site de l'INA qui dure bien 1h30. Merci pour cet extrait, Juliette Méadel. Alors ça, j'ignorais qu'il avait un lien avec l'aide aux victimes puisque en effet, on va en parler un instant dans les quelques moments qui nous restent ensemble, Juliette Méadel. Vous prenez ce poste en 2016, début 2016, après les attentats dont on a parlé, de novembre. Et vous hésitez, en fait, à prendre ce poste. Hein. En plus, vous êtes enceinte de votre quatrième enfant, c'est votre premier jour de congé maternité. François Hollande vous appelle, vous ne dites pas oui tout de suite. Vous avez une forme de syndrome de l'imposteur ou...
On était en fin de quinquennat. J'en avais assez du Parti Socialiste, pour être clair. Voilà, j'en avais assez. Et par ailleurs, j'avais pas envie de rentrer dans un gouvernement enceinte de mon quatrième enfant... pour faire potiche, quoi. Voilà. Donc je lui ai dit clairement, moi, si je viens, c'est pour faire des choses. Et pour faire des choses utiles, il faut que je sois placée à Matignon. Parce que je savais très bien que l'aide aux victimes, c'est pas que le ministère de la Justice. C'est aussi le ministère de l'Économie, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est aussi le ministère de l'Intérieur. Bref, il fallait un accompagnement total pour les victimes. Il fallait donc peser. Donc je lui ai dit, voilà, je rentre si c'est pour faire des choses. Voilà, donc il a un peu insisté. Manuel Valls m'a rappelé plusieurs fois et on a fini par se mettre d'accord sur un poste qui serait rattaché au Premier ministre.
Et 6 mois plus tard, vous en parliez, l'attentat de la promenade des Anglais à Nice qui rajoute 800 victimes, hein, puisqu'on compte également
absolument
les témoins, les proches.
Les blessés.
Il y avait déjà plus de 2000 pour les attentats du 13 novembre. Et vous dites, on sent que vous prenez conscience de l'importance finalement du poste que vous avez accepté, puisque vous dites... En juillet, je pense que les personnes ont été mieux informées du sort de leurs proches qu'en novembre.
Oui, mais il faut aussi reconnaître que quand les attentats de novembre arrivent, on n'était pas prêts. Je l'ai dit d'ailleurs en commission d'enquête parlementaire. La France n'était pas prête à des attentats d'une telle ampleur. Ceux de novembre et ceux du Bataclan, on a oublié. Mais c'est des centaines de personnes. Ça a fait des milliers de personnes. Hein. Souvenez-vous bien du chiffre macabre, atroce que j'ai trouvé quand j'étais aux victimes. Quand il y a une victime d'un attentat qui meurt... Il y a 10 victimes autour. Pourquoi ? Parce qu'il y a des blessés, il y a des blessés psychiques, il y a des blessés physiques. Et il y a des orphelins. Donc, les attentats de novembre, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont victimes. Et oui, elles ont manqué d'accompagnement. Oui, mais on n'était pas prêts. On n'avait jamais vécu ça. Donc, il fallait créer les structures publiques pour ça, créer les circuits, notamment au moment où il faut communiquer les lieux où se trouvent les malades, les lieux où auront lieu, hélas, les enterrements, les indemnités, l'accompagnement psychique, et puis surtout l'indemnisation sur le long terme et la vie après l'attentat pour des personnes qui sont handicapées à vie. Et tout ça, ça s'organise.
Comment faut-il commémorer, Juliette Méadel, vous qui êtes ministre de la Ville, les 10 ans des attentats en novembre prochain ?
Il faut le commémorer d'abord en faisant parler les victimes, parce que les plus beaux discours politiques sont les discours portés par les victimes elles-mêmes, dont je n'ai jamais entendu la moindre haine dans les mots. Je me souviendrai toujours de cette tribune qu'on rédige avec des victimes d'attentats au moment de l'élection présidentielle de 2017, et où on écrit « Marine Le Pen, vous n'aurez pas nos haines ». Pourquoi ? Les victimes d'attentats réclament justice, ne réclament jamais la vengeance par le sang. Elles réclament de la République, de la paix et du droit. Ça, c'est la première chose. Donc, faire parler les victimes, ne jamais les oublier. Et deuxièmement, rappeler que c'est toute la France qui était victime et qu'il ne faut pas en rabattre sur nos principes.
Merci Juliette Méadel, ministre chargée de la Ville, d'être venue dans Sens Politique. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et l'application Radio France. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui nous interrogent sur le choix de nos invités que nous respectons les règles de l'ARCOM qui imposent le pluralisme en fonction des forces politiques au gouvernement et au Parlement, y compris hors période électorale. Merci à Léa Varin qui m'a aidé à préparer cette émission, à la réalisation cette semaine Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon et à la vidéo Nicolas Bonnet. Merci à tous et à samedi prochain.